BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot. Erwan Maurice.
Bonjour à tous, c'est l'heure de votre émission RH. On vous accompagne pendant une demi-heure. Soyez les bienvenus. Au programme, une question avec notre première invitée. Comment revoir sa culture d'entreprise? On interrogera Florence Gounel chez NeoBrain. Elle est notre DRH de la semaine. Dans 10 minutes, c'est la séquence service de notre émission. Vous vous adressez à nous, vous nous posez vos questions, on y répond avec vous, Jeanne. Bonjour, et avec notre avocat en droit du travail.
Oui, bonjour Erwan. Aujourd'hui, c'est l'avocate Pauline Taneil, avocate associée du cabinet Akiki Associés, qui nous dit que faire si un employé divulgue des informations. Écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos avocats en droit du travail sur happyboulot@bfmbusiness.fr.
Dans notre meeting, on va s'intéresser au nouveau congé de naissance. Est-il mieux adapté à la vie des jeunes parents actifs dans leur équilibre vie pro-vie perso? Est-il adapté aux entreprises aussi? On posera la question à nos invités. Et puis, en fin d'émission, dans le labo d'Happy Boulot, on est allé vous chercher un casque de réalité virtuelle pour vous aider à déstresser. On verra si ça marche. Merci d'être avec nous. C'est parti. On vous sort de votre boîte.
Happy Boulot, la DRH de la semaine.
NeoBrain cette semaine, plateforme de gestion de compétences et des carrières qui compte 1 million d'utilisateurs par mois, passé de 15 à 150 salariés en 2 ans, qui travaille avec une centaine de grands comptes désormais à la tête des ressources humaines de cette entreprise. C'est vous, Florence Gounel. Bonjour.
Bonjour.
Soyez la bienvenue dans Happy Boulot.
Merci beaucoup.
Avec plaisir, merci d'être là. Vous pilotez donc les RH dans une boîte, peut-être d'un mot d'abord, mais en hyper-croissance. Hein, je le disais, on a multiplié par 10 en 2 ans les effectifs. C'est pas simple quand on a ce rôle de diriger les ressources humaines?
Oui, alors effectivement, NeoBrain, c'est une entreprise en très forte croissance, à la fois donc la croissance organique et aussi via de la croissance externe, puisqu'on a acquis des entreprises en une période de temps assez limitée. Et effectivement, beaucoup de choses changent. Les collaborateurs attendent aussi, en tout cas, un accompagnement différent de la part de l'entreprise, puisque on ne fait pas des ressources humaines de la même façon dès lors qu'on est une entreprise de 15 collaborateurs ou de 100 collaborateurs, puisque déjà les obligations réglementaires ne sont pas les mêmes. Et puis ensuite, effectivement, on se doit, en tout cas, d'accompagner au mieux les collaborateurs pour leur permettre à la fois de se développer et de les aider à se développer dans leur parcours professionnel.
Alors c'est Paul Courteau, le cofondateur, qui disait, je voyais il y a encore pas longtemps, que le moment était venu de peut-être ralentir un peu la croissance pour trouver de la rentabilité désormais. Ça c'est pour le côté business. Côté RH, c'est quoi? C'est aussi pour se poser un peu et justement trouver un peu sa culture. Qu'est-ce que c'est que NeoBrain? Qu'est-ce qu'on a envie de véhiculer comme valeur quand on fait des ressources humaines?
Oui, c'est ça, et c'est le co-construire avec les collaborateurs, puisque effectivement on a une phase de très forte croissance pendant 2 ans, où là on arrive à un stade où on se dit comment on fait pour construire avec nos collaborateurs ce qui va leur donner envie de rester et ce qui nous va nous permettre aussi de continuer en tout cas à croître et à développer aussi cette croissance durable que l'on connaît.
Alors il y a quoi là-dedans pour leur donner envie de rester chez vous?
Alors déjà si on parle vraiment de la culture et des valeurs, on a fait voter les valeurs à nos collaborateurs en septembre dernier, c'est-à-dire que suite effectivement à l'acquisition de 2 entreprises, à une très forte croissance via du recrutement, on s'est dit ok, nos valeurs elles ont évolué, notre entreprise elle a un stade aussi de développement qui a évolué, donc votons ensemble ce qui nous représente. Et une fois qu'on a eu voté ces valeurs, eh bien, comment on fait justement pour les incarner et pour faire en sorte que cette culture elle soit vivante et elle soit surtout incarnée par l'ensemble des collaborateurs NeoBrain.
Parce qu'il faut fédérer les équipes autour de ces valeurs qui ont été votées, qui deviennent un petit peu le centre, l'idée de l'entreprise, donc de chez NeoBrain. Vous disiez que vous aviez intégrer des entreprises, 2 entreprises, je crois, donc ça veut dire des nouveaux collaborateurs qui du jour au lendemain rejoignent les équipes. Comment est-ce que on arrive à coller aux valeurs, à les faire adhérer aux valeurs de l'entreprise quand ils arrivent comme ça?
Mais je pense que ça passe par beaucoup de pédagogie, beaucoup d'explications de ce que sont et de ce qu'est notre culture d'entreprise, ce qu'est nos valeurs et les comportements associés à ces valeurs. Je pense que c'est important en tout cas de mettre des actions en face de ces valeurs et pas juste des mots ou des définitions.
Et c'est quoi les actions?
Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Une de nos valeurs, c'est l'esprit d'équipe. Qu'est-ce que ça veut dire de travailler en équipe et qu'est-ce que cela induit et qu'est-ce que cela permet? Nous aujourd'hui, dans notre culture d'entreprise, on s'est dit qu'on était une entreprise qui grandissait vite, qui avait besoin en tout cas que ses collaborateurs collent à la culture, mais au-delà de ça, ça veut dire qu'on est aussi, entre guillemets, capable d'accepter les erreurs du moment qu'effectivement elles sont partagées, elles sont reconnues, et comment on fait pour en tout cas ne plus commettre ces erreurs-là ou éviter de les refaire. Donc en fait, on a développé des comportements dans lesquels on s'est dit, est-ce que ça colle à ce qu'on a envie d'être, à la façon dont on a envie aussi de travailler et de faire en sorte que nos collaborateurs aient envie de rester chez nous.
Donc beaucoup d'échanges, ça fait partie des sujets aujourd'hui qui sont plébiscités par les salariés. On veut pouvoir communiquer avec son manager, on ne veut plus l'entretien annuel aussi obligatoire avec les RH qui est une fois par an par définition. On veut pouvoir plus échanger, on veut plus de souplesse dans le travail, on veut pouvoir travailler de chez soi si c'est possible. Tout ça, c'est des choses que vous proposez.
Alors, c'est des choses effectivement qu'on co-construit et sur lesquelles on s'est aligné à la fois avec nos collaborateurs, mais aussi avec ce que nous, on a envie de retrouver chez NeoBrain. Et vous parlez des entretiens. Nous, aujourd'hui, on a un outil qui est le nôtre, qu'on utilise en interne et qui permet en tout cas de créer des moments d'échange particuliers entre le collaborateur, son manager et l'ARH. Ouais.
Ça a évolué avec le Covid, ça a accéléré ou pas? Parce que souvent, on a l'impression que c'est depuis 2020 que les choses ont beaucoup évolué. Niveau RH,
Je dirais que les choses, elles ont évolué, mais je dirais aussi qu'on a un outil qui nous permet en tout cas d'avoir fait évoluer ces choses-là. C'est-à-dire que tous les trimestres, nous, on va lancer un sondage pour prendre le pouls au sein des équipes, savoir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas. Et derrière, ça va peut-être pas, mais pourquoi ça va pas? Et par rapport au trimestre dernier, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, en fait, on est vraiment très à l'écoute de savoir, de comprendre et surtout derrière, d'agir. Parce que c'est aussi ça qui est important. C'est-à-dire que c'est facile de dire, il y a ça, mais derrière, qu'est-ce qu'on propose? Comment on avance et comment on travaille ensemble?
Récemment, justement, qu'est-ce que vous avez fait évoluer à l'issue de ces sondages?
Alors, par exemple, tout simplement sur l'organisation du travail. On avait effectivement beaucoup de remontées sur les réunions, les meetings.
Ça revient souvent. Hein.
Voilà.
C'est vrai. Hein.
Et du coup, on a dit aux collaborateurs, OK, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? C'est quoi? C'est qu'il y a trop de réunions? C'est que vous allez à toutes les réunions? C'est que vous êtes... Qu'est-ce qui vous manque, en fait? Et qu'est-ce qui fait qu'il y ait ce sentiment de dépendance vis-à-vis des réunions, des meetings? Et donc, on l'a travaillé avec eux. Et derrière, on a mis en place, en fait, des règles très simples de dire, si demain, effectivement, ce meeting-là, je ne peux pas y aller parce que je n'ai pas la nécessité d'y être ou que finalement, je n'ai pas d'apport à être dans ce meeting, je n'y vais pas. Et donc, on a vraiment aidé les collaborateurs à, entre guillemets, organiser leur temps de travail et souffler par rapport à cette espèce de pressurisation qui pouvait être connue vis-à-vis des réunions.
Ouais. Pour terminer, on va parler dans quelques minutes, dans la suite de cette émission, avec nos invités qui nous rejoindront, du nouveau congé parental et de la manière dont ça évolue aussi, dans quel sens est-ce qu'on est en train d'aller. Si on parle d'aménagement du temps de travail pour les jeunes parents, est-ce que c'est aussi des sujets que vous regardez en ce moment?
Bien sûr, et on se doit d'accompagner nos collaborateurs. Moi-même, je suis maman, je viens d'avoir une petite fille qui a à peine 7 mois, merci beaucoup. Et c'est très important, en tout cas pour nous, de pouvoir permettre aux collaborateurs qui sont jeunes parents de pouvoir à la fois avoir du temps pour travailler et avoir du temps pour être avec leur famille. Et ça, c'est des choses qu'on a mis en place via le Parental Act, avec effectivement déjà pas de conditions d'ancienneté pour pouvoir bénéficier d'un congé paternité ou maternité, payé en tout cas à 100%. Et ensuite, effectivement, l'organisation du temps de travail avec des plages horaires spécifiques, et on évite les réunions entre certaines plages horaires pour que les collaborateurs, en tout cas, aient tous les mêmes chances d'accès...
Ça fait partie des évolutions vers lesquelles on va, et c'est positif. Florence Gounel, il nous reste 30 secondes pour savoir un peu mieux. Ça passe vite, hein. Quel DRH vous êtes? C'est Patrice qui vous amène tout de suite la boîte du DRH. Alors, un papier, on va en prendre qu'un parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je vous laisse bien mélanger bien, parce que souvent on tire les mêmes.
Allez.
Et vous, une phrase à compléter, je vous laisse nous la lire.
Dans ma boîte, si un salarié veut me voir, c'est facile.
Facile?
Oui. Mon agenda.
Il vous envoie un mail, il vous appelle,
mon agenda est ouvert,
à la porte.
Mon numéro de téléphone est partagé. Et s'il y a vraiment quelque chose qui est important chez NeoBrain, en tout cas, c'est la transparence et c'est la disponibilité des équipes de direction et des managers.
Parce que là, vous êtes 150, mais quand vous serez 1500, est-ce que ça sera toujours aussi facile?
Je pense que mon téléphone restera toujours ouvert.
Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Merci d'avoir été avec nous ce week-end. Florence Gounel, DRH de NeoBrain. Tout de suite, on appelle notre avocat.
Et on vient tout de suite Pauline Tanaille, avocate associée au cabinet Akiki Associés, pour répondre à cette question. Un de mes salariés divulgue des informations stratégiques à une de ses amies qui a une entreprise concurrente de la mienne. Que puis-je faire?
quand on a un salarié dont on découvre qu'il a divulgué des informations confidentielles qui appartiennent à l'entreprise, alors il y a plusieurs choses. Soit c'est une divulgation qui est involontaire et donc on peut en discuter avec le salarié, soit on constate qu'en réalité c'est une divulgation volontaire d'informations confidentielles, et dans ce cas-là c'est une faute que le salarié commet, et c'est un manquement non seulement à son obligation de discrétion et à son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur, et dans ce cas-là on peut le sanctionner par un licenciement pour faute, qui peut être un licenciement pour faute grave, voire pour faute lourde, si en plus de la divulgation le salarié a eu pour volonté de nuire à son employeur.
Merci Pauline Tanet, avocate associée au cabinet Akiki Associés. Écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos avocats en droit du travail sur happyboulot@bfmbusiness.fr. On vous répond toutes les semaines dans notre émission avec nos experts.
Happy Boulot, le meeting.
Le nouveau congé de naissance est dans les cartons. Il est prévu qu'il entre en vigueur en 2025. Il va coûter plusieurs centaines de millions d'euros, nous dit l'Opinion cette semaine. Jeanne Spicarolène, on vous retrouve. Concrètement, qu'est-ce qui devrait changer?
Alors, le nouveau congé parental sera beaucoup mieux rémunéré. 50% du salaire dans la limite de 1900 euros par mois contre 448 euros par mois pour l'ancien congé parental. Mais il sera beaucoup plus court. 3 mois pour chaque parent, non renouvelable à prendre ensemble ou l'un après l'autre, contre 3 ans maximum pour l'ancien congé parental, à savoir que c'est en cumul du congé maternité et du congé paternité qui font respectivement 16 semaines et 25 jours calendaires.
Alors pour l'heure, ça ne fait pas l'unanimité.
Non, il inquiète les syndicats, à vrai dire. Selon Pascale Coton, vice-présidente de la CFTC, l'actuel congé parental est une bouée de sauvetage pour beaucoup de parents. Il est dangereux de le supprimer tant que les services à l'enfance ne sont pas suffisants. Mais le gouvernement, lui, estime que le dispositif actuel est en perte de vitesse. 250 000 parents y ont eu recours en 2020, soit 2 fois moins qu'en 2013, avec une part de 95% de femmes. Sarah El Haïry, la ministre déléguée chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles, elle dit que 6 milliards d'euros supplémentaires vont être investis d'ici à 2027 pour développer les crèches, le secteur des assistantes maternelles et l'ensemble des modes d'accueil. Une première réunion de concertation s'est tenue le 15 mai et le dispositif devrait être mis en vigueur courant 2025.
Voilà pour les bases de ce nouveau congé de naissance, donc il devra arriver, comme vous le disiez Jeanne, en 2025. Merci. Alors est-ce que ça va dans le bon sens pour les salariés, pour les directions d'entreprise? On en parle avec nos invités que j'accueille tout de suite à ma droite. Marine Dezendre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la cofondatrice des Parents Zen, un réseau de crèches qui démocratise leur accès aux salariés. Vous travaillez directement avec les entreprises, on va en parler. Et face à vous, Marianne Pumière de Louvigny, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole de Factorial France, logiciel qui aide les entreprises à numériser leur processus RH. Sur cette évolution-là du congé parental, est-ce que pour vous c'est une avancée, déjà en termes d'égalité, puisque c'est aussi beaucoup un sujet, faire que la maternité, la paternité soient gérées de la même manière quand on est un homme, une femme, quand on est salarié, qui... éviter les inégalités déjà à ce niveau-là?
Alors, tout à fait. Effectivement, pour les salariés, je pense que c'est une avancée, notamment pour développer le rôle du père et du coparent dans ce rôle-là qui est l'arrivée d'un enfant. Après, ça pose aussi d'autres questions, notamment l'accompagnement des collaborateurs. Donc, pour bien préparer un départ en congé parental, notamment en congé maternité, et surtout bien préparer aussi le retour. C'est une période qui peut être un petit peu aussi compliquée, qui peut être difficile d'un point de vue émotionnel pour les parents. Donc, il y a cet accompagnement là pour que les parents puissent revenir sereinement aussi au sein de l'entreprise et avoir éventuellement des horaires de travail aménagés et surtout lever certains freins comme notamment les solutions de garde qui peuvent être une question prenante pour les parents.
Le retour à l'emploi des parents, c'est un sujet dont on a déjà parlé dans cette émission, bien sûr, parce que ça concerne les salariés et la vie de bureau. Il y a encore peu de choses qui sont mises en place, Marine Dezendre.
Il y a des entreprises qui font bien les choses et de plus en plus, heureusement, enfin qui ont pris conscience qu'il n'y avait plus la vie perso d'un côté et la vie pro, tout était mêlé et que si elles voulaient attirer des talents et garder des talents, il fallait mettre des choses en place pour faciliter la vie des jeunes parents, mais pas que, de tous les parents, quel que soit l'âge de leurs enfants. Donc chez les Parents Zen, qui s'est appelé pendant 10 ans enfin 12 ans même, ma place en crèche, on a élargi les services pour qu'on ait des services pour tous les parents, quel que soit l'âge des enfants. Mmh. Parce que c'est une vraie demande de nos clients, des DRH, qui disaient, bon, c'est super, on peut aider les jeunes parents, et c'est un moment de bouleversement, donc il faut commencer par là, mais ouais. Il faut aussi...
Parce que, expliquez-nous juste rapidement le concept. Vous travaillez avec les RH, en fait, hein, pour qu'ils prennent en charge aussi cette solution, qu'ils se sentent concernés.
Voilà, en fait, on fait du conseil, finalement, auprès des RH. On regarde, vraiment, on met à plat les besoins de leurs collaborateurs. On va faire des sondages en interne pour savoir quels sont les besoins, et on va écrire avec eux une politique parentalité et les aider à la mettre en place. Et on va assez loin, parce qu'on fait même partie d'un collectif qui s'appelle Bifamily. Donc vous allez en entendre pas mal parler, parce que ça vient d'être lancé notamment par l'ancienne DRH de Danone, Françoise Cardoso, et puis d'autres personnes qui sont spécialistes de la petite enfance. Et alors, juste pour répondre à la question sur le congé parentalité, évidemment, toutes les choses sont bonnes à prendre pour les parents, mais moi, je suis pas trop... on fait pas mal d'enquêtes, de baromètres sur la parentalité, pour demander justement ce qu'attendent les collaborateurs. Et les collaborateurs, ils attendent surtout un allongement du congé paternité second parent, et qu'il soit aussi mieux payé. Mais le congé parental, ça vient jamais trop dans les sondages.
C'est 25 jours, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Voilà. Et ça a été allongé. Compris par les pères, effectivement. C'est seulement la moitié des congés parentaux, des paternités qui sont pris. Ouais. Donc, ça remet aussi le poids sur les mères. Et donc, la place en entreprise devient d'autant plus compliquée qu'il n'y a pas ce soutien du conjoint à ce moment-là qui est vraiment très critique.
Et comment on fait pour faire évoluer les choses?
Alors, pour moi, il y a un gros changement de mentalité qui doit aussi s'opérer. Effectivement, en France, on voit encore assez régulièrement des réactions sur quand un père prend la totalité de son congé paternité. Il y a presque une incompréhension parfois de la part de certains employeurs et de certains collègues. Et donc voilà, il y a aussi cette mentalité-là à faire évoluer pour que le coparent prenne la totalité de son congé et voir effectivement qu'il soit allongé. Si je prends l'exemple de l'Espagne, donc Factorial est une entreprise espagnole, donc il y a 16 semaines de congé paternité. Mm-hmm. Oui. C'est un non-débat dans l'entreprise, c'est-à-dire que les pères prennent leurs 16 semaines.
16 semaines contre 25 jours, ici.
Absolument. Ils les prennent et ça se passe très bien. Et voilà, parce que justement, il faut l'importance de bien préparer ce départ en congé maternité ou paternité et d'avoir un plan de continuité et de faire en sorte que le collaborateur revienne sereinement dans l'entreprise.
Il y a un travail de pédagogie à faire aussi, non, de la part des entreprises. Et puis, est-ce que ce n'est pas un travail de RH de dire, en fait, c'est légal, et puis ça participe à l'égalité entre les salariés hommes et femmes.
Oui, mais alors après, le souci, c'est que financièrement, il y a les jours obligatoires pour les papas qui sont financés 100%, mais après, ce fameux allongement du congé paternité, il est rarement pris en charge à 100% par les entreprises et puis par la Sécu.
Pour l'instant, mais peut-être que dans les secteurs aussi les plus en tension, on avance plus vite là-dessus, parce que je pense à la tech notamment, parce que c'est un sujet aussi dont on parle beaucoup sur BFM Business.
On n'a pas le choix.
Oui, si on veut que les talents, comme ça qu'on les appelle, viennent chez nous, il faut proposer ça.
Tout à fait, exactement. Et si on veut aussi que les collaborateurs reviennent sereinement dans l'entreprise et se redonnent à fond aussi, c'est l'intérêt de l'entreprise d'accompagner mieux. En fait, on voit de plus en plus, certaines femmes ont besoin d'un re-onboarding complet. Donc c'est comme si elles revenaient complètement, elles découvraient l'entreprise en fait, parce qu'il y a eu une obsolescence de compétences, le poste a pu évoluer, la situation a pu changer. Et donc voilà, il y a ce besoin de se rassurer, de reprendre de la confiance au moment de revenir dans l'entreprise.
C'est vrai que pour l'instant, on va passer là-dessus, mais on en est encore loin. Je reprends ce chiffre que vous nous donnez chez Z avec Opinionway. Lors d'une naissance, plus de 6 Français sur 10 estiment que l'entreprise n'apporte pas assez d'aide. C'est-à-dire que là, on parle de secteurs où on n'a pas le choix, dans la tech, on le disait, mais il y a encore plein d'autres secteurs où évidemment, ça n'est pas mis en place. Pour terminer, il y a aussi la question du coût qui est importante, c'est combien ça va coûter, parce que c'est ça qui préoccupe les directions d'entreprise. Il va falloir les rassurer ou leur demander d'anticiper pour qu'elles puissent s'adapter face à l'évolution de la législation.
Alors, je pense qu'il faut aussi le mettre au regard des coûts qui sont induits par le fait que certaines mères ne reviennent jamais dans l'entreprise ou prennent effectivement un temps très long ou sont en difficulté pour des solutions de garde, pour gérer un peu le quotidien. Donc, pour moi, c'est ça aussi qu'il faut mettre. Bien sûr que ça va avoir un coût. Ouais. Je pense que c'est aussi une occasion de fidéliser les collaborateurs et de vraiment se poser les bonnes questions sur l'équilibre vie pro-vie perso.
Marine Dezande, sur votre activité, l'évolution de la législation va aussi changer quelque chose ?
Ouais, de toute façon, on est impacté tous les jours hein, sur les crèches.
Oui.
On n'arrête pas, donc on est des entreprises très voilà, on se remet en question tout le temps, donc on se réinvente, donc on trouvera des choses.
De quoi faire.
De quoi faire. Oui, ça nous fait pas peur.
Merci beaucoup d'être venu nous parler de tout ça aujourd'hui dans Happy Boulot. Marine Dezande, cofondatrice des Parents Zen, et Marianne Pumière de Louvigny, porte-parole de Factorial France. Merci beaucoup, d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la carte blanche. Avec Yannick Mercieris aujourd'hui, directeur de Daily Swell, qui nous parle du travail pendant les Jeux Olympiques. On a déjà parlé dans cette émission. Et ça concerne surtout les Franciliens, bien sûr, hein, Yannick.
Va-t-on être obligé de télétravailler pendant les JO ? Alors, c'est possible, mais c'est très peu probable. Et je vous explique pourquoi. Vous avez certainement vu passer cette citation de Valérie Pécresse qui demande à tous les Franciliens de télétravailler le plus possible pendant les JO pour éviter que les transports soient surchargés.
Alors, il paraît que c'est de ma faute.
En effet, on attend près de 800 000 personnes par jour, rien qu'à Paris. Donc, est-ce que notre boîte peut nous forcer à télétravailler ? Si on croit le code du travail, techniquement, oui. En cas de circonstances exceptionnelles ou cas de force majeure. Sauf que les JO ne sont pas encore un cas de force majeure. Donc techniquement, on pourrait vous forcer, mais concrètement, on le fera pas. Alors comment on va faire pour mieux travailler dans ce joli bordel que sont les JO ? Eh bien, tout simplement en étant plus malin. C'est-à-dire potentiellement faire un peu plus de télétravail quand même, avoir des horaires plus flexibles, ou peut-être le mieux, partir en vacances tout simplement. Même si c'est un peu cher en route. Et pour les vacances, par contre, votre employeur peut vous imposer les dates. Il faut qu'il vous prévienne 2 mois à l'avance. À titre de comparaison, en 2012, il y avait un tiers des Londoniens qui étaient en télétravail. Donc moi, mon petit conseil, c'est le matin, vous partez plus tôt ou plus tard au travail. Et pour les jours de TT, vous choisissez les jours où il y a des France Info.
Happy Boulot, le Lab.
Et pour le Lab, comme tous les week-ends, Jeanne est de retour. Alors, pour ceux qui nous suivent en replay ou en podcast ou à la radio, sachez que, vous la voyez pas, mais Jeanne, vous avez chaussé votre casque de réalité virtuelle. Vous venez de terminer une séance de relaxation, et ça pour vous déstresser?
Une séance de relaxation de 5 minutes qui m'a mise dans de nouveaux univers, un univers avec un espace où on voit le soleil, des planètes, et un autre où on est dans une sorte de jungle luxuriante, tout ça avec une voix qui nous explique comment se concentrer sur notre respiration, tout ça. Donc super, là je suis hyper détendue.
Bon, vous revenez avec nous ?
Oui.
Parce qu'on est avec la patronne de l'entreprise.
Oui,
que
bonjour.
Je vous laisse nous présenter.
Oui, bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes avec Élise Jabès, du coup,
bienvenue.
Bonjour Élise, vous êtes la directrice générale de Coréode Care, un casque de réalité virtuelle donc, que vous avez vu, boosté par l'IA et qui sert de thérapie éclair. C'est ça, Élise ?
Tout à fait. Notre casque de réalité virtuelle travaille sur la digitalisation de protocoles de réalité de santé mentale et en utilisant des recherches basées sur plus de 10 ans en neurosciences. Et le tout, c'est pour améliorer la gestion du stress au travail. Donc notre innovation, elle est sur la forme, vu qu'on travaille avec des technologies innovantes telles que l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle, en utilisant bien entendu des recherches en neurosciences. Vous me poserez toutes les questions que vous souhaitez là-dessus. Sur la forme, sur le contenu, parce que nous avons des protocoles de ce qu'on appelle réparation pour travailler le burn-out, pour travailler l'amélioration du sommeil, pour travailler sur la décharge mentale.
Mais donc encadré par des psychologues, enfin qui propose cette technologie ? Est-ce que c'est salarié ?
C'est Coréode.
D'accord.
Nous avons mis en place ce dispositif innovant que nous mettons entre les mains de l'entreprise. Donc c'est tout ce qui est RH, dispositif RH qui prennent en charge, ou les happiness officer happiness, qui mettent à disposition de leurs salariés cette innovation.
Donc voilà, on peut le proposer. Vous, comment vous avez vécu cette expérience, vous, Jeanne ?
J'ai trouvé ça extrêmement relaxant tout de suite. Hein. Ouais. Au bout de 5 minutes, c'est assez bluffant. On se sent tout de suite très apaisé. Donc voilà, avant un passage à l'antenne, par exemple, ça peut être parfois stressant. Et bien là, tout de suite, on se sent plus calme.
Question.
Comment vous avez fait du coup pour adapter ces recherches pour les salariés de start-up ? Parce que comme vous l'avez dit, à la base, c'était plutôt proposé pour les astronautes et militaires. Et là, on se retrouve du coup...
Dans l'entreprise.
Dans l'entreprise, oui.
Exactement. L'idée est venue justement pour travailler... Nous, Coriode Consulting, on travaille depuis plus de 10 ans sur la gestion du stress en entreprise en proposant des coachings, des formations, gestion de stress. On travaille à 360 degrés avec tout type de salariés, du CIO, Comex, jusqu'à l'alternant.
Combien d'entreprises clientes aujourd'hui ?
Nous en avons une dizaine. Une dizaine d'entreprises avec qui on collabore et nous travaillons en pourparlers pour justement augmenter encore plus parce que ça tient vraiment à cœur des entreprises aujourd'hui le bien-être des salariés. Et la question justement c'était comment c'est venu des astronautes, hein, c'est qu'au fait nous on travaille en neurosciences sur le cerveau qui impacte donc une idée stressante va impacter le corps de la personne. Donc un astronaute va stresser par exemple pour une sortie extravéhiculaire ou par rapport à l'utilisation
d'un... C'est moins stressant que de faire une chronique dans Happy Boulot, non, quand même, Jeanne.
Je pense. On arrive au bout, mais on trouve
votre technologie, on peut la tester là, sur le salon Vivatech jusqu'à samedi.
Exactement. Nous sommes sur Vivatech.
On peut faire l'expérience si on est à Paris.
Voilà, absolument.
Merci beaucoup d'être venu nous présenter cette technologie que vous avez développée, Élise Jabès, directrice générale de Coriode Care. C'est tout pour aujourd'hui. Pour retrouver cette émission en replay, en podcast, bien sûr, abonnez-vous pour recevoir les nouveaux épisodes. Merci à cette semaine Nina et Alban qui étaient en régie. On se retrouve le week-end prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, soyez heureux, au boulot.
Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte.